Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Anaëlle. C'est après 10 ans d'exercice en enseigne d'optique qu'elle a décidé d'aller à la rencontre des personnes isolées pour pratiquer son métier d'opticienne, mais cette fois-ci à domicile. Bonne écoute! Bonjour Anaëlle!
Bonjour Marielle!
Je suis ravie de te recevoir ce matin. J'aime bien toujours mettre un petit peu de contexte, mais voilà, on enregistre un vendredi matin. Tu as eu la grande gentillesse de me libérer un petit peu de ton temps pour pouvoir nous raconter ton métier.
Avec plaisir.
Je suis ravie de te recevoir parce que donc, comme je t'avais dit dans le mail, tu es la première opticienne que je reçois. Voilà, un métier qu'on n'a encore jamais abordé, ni de près ni de loin. Donc, je suis très contente de te recevoir.
Eh bien, écoute, moi, c'est avec plaisir aussi que j'ai l'occasion de pouvoir partager mon expérience professionnelle. Voilà, hâte de dérouler le podcast.
Alors, pour démarrer, Anaëlle, on commence comme d'habitude par les présentations.
J'ai 35 ans, j'habite à côté de Strasbourg, à Schiltigheim, pour honorer les prononciations spécifiques alsaciennes, et je suis opticienne depuis 15 ans.
Ok, très bien. Est-ce que c'était une évidence pour toi? Est-ce que quelqu'un dans ta famille exerçait déjà ce métier? Comment t'as découvert le métier?
Alors, pas du tout. J'ai découvert le métier grâce à ma maman qui travaillait dans la téléphonie commerciale chez les professionnels. Et grâce à elle, j'ai pu découvrir le métier d'opticien parce que voilà, j'étais en première et il fallait donc trouver sa voie. Donc, j'ai pu passer une journée chez un kiné, 3 jours chez un opticien pour découvrir un peu ces métiers-là. Et donc j'ai décidé de passer le cap pour faire mes études d'optique.
Ah super, 3 jours c'est bien en plus, on a le temps de, je pense, bien s'imprégner de ce qui se passe sur 3 belles journées, c'est chouette.
Ouais, effectivement, j'ai pu voir tous les aspects du métier et ça a été très complet. J'ai pu aussi échanger sur les différents types de formations qui existent avec l'opticien pour pouvoir... choisir celui qui me convient le mieux.
Alors, on va faire un petit focus sur les études. Déjà parce que c'est intéressant et que moi, je pense toujours au fait qu'il y a peut-être des étudiants qui sont en quête de savoir quel est le métier qui est fait pour eux. Et j'aime bien avoir le point de vue vraiment de l'intérieur. Alors, voilà, comment se déroulent les études? Quel bac tu as fait, etc. C'est vraiment l'aspect un peu pratico-pratique du podcast, mais c'est toujours intéressant.
Nécessaire, oui. Alors moi, je sors d'un bac S. Et après, je suis passée directement en BTS. Il y a la possibilité en optique de passer par un CAP ou un BEP optique, qui peut nous emmener aujourd'hui jusqu'à un bac pro optique. Avec ces diplômes-là, on n'est pas opticien, on est monteur-vendeur. Donc on peut tout à fait travailler en magasin, on a la formation nécessaire pour pouvoir réaliser des montages, réaliser des ventes. Mais le fait de passer par un BTS opticien-lunetier, qui est aussi accessible quand on a fait un bac pro, hein, ça peut être une continuité, on a la possibilité du coup de pouvoir réaliser des bilans visuels en magasin grâce à ce BTS. Et après, on peut continuer en licence. Donc, en licence, on va davantage se spécialiser en contactologie et en bilan visuel, en examen de vue. Et on peut aller encore plus loin en allant jusqu'au master, où là, on arrive avec un diplôme d'optométriste. Alors, le diplôme d'optométriste est hyper complet dans l'analyse de la vision. Un optométriste en parlera beaucoup mieux que moi. mais malheureusement, c'est un métier qui n'est pas reconnu en France. Dans la majorité des pays dans le monde, il l'est. Et un optométriste peut également prescrire des lunettes. Mais France, c'est impossible, malheureusement.
Donc, en France, on passera toujours par un rendez-vous chez l'ophtalmologue.
Exactement.
Qui après nous enverra vers un opticien.
Exactement.
D'accord. Ouais, et quand tu parlais de petits bilans de vue, du coup, ça serait plus pour réajuster des corrections ou des gens qui sont entre deux prescriptions? Comment ça se passe?
Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, pour faire un petit rappel par rapport à la durée de validité des ordonnances, quand on a entre 16 et 42 ans, une ordonnance, une prescription médicale de lunettes est valable 5 ans. Sauf s'il y a une mention sur l'ordonnance comme quoi l'ordonnance n'est pas renouvelable, un opticien a la possibilité de renouveler l'ordonnance sur cette période des 5 ans.
D'accord.
Quand on y a en dessous, donc moins de 16 ans, elle est valable 1 an. Et au-dessus de 42 ans, elle est valable 3 ans.
D'accord.
On a aussi la possibilité de renouveler les lunettes sans prescription médicale, mais dans des cas très spécifiques de casse de lunettes ou d'urgence absolue, ou voilà, par exemple, quelqu'un qui est très myope, qui vient de casser ses lunettes et on peut lui refaire en 24 heures. Bien évidemment, la sécurité avant tout, on a la possibilité de le faire. Donc, il y a quand même de l'urgence qui est possible, le traitement d'une urgence qui est possible.
Ok, ça part du principe qu'avant 16 ans et qu'après 42 ans, la vue est un peu plus sujette à évoluer, enfin en tout cas plus rapidement qu'entre cette tranche d'âge.
Effectivement, il y a un suivi pathologique aussi, des pathologies qui peuvent être davantage détectées au-delà de 42 ans.
Okay.
Comme on peut penser à la cataracte, l'apparition de la presbytie, bon, qui n'est pas une pathologie, mais qui doit être quand même suivie. Et puis d'autres pathologies liées au vieillissement de l'œil.
Très bien. Alors pour en revenir à tes études, du coup toi bac général et du coup tu enchaînes avec le BTS derrière.
J'enchaîne avec un BTS, oui. Le BTS dure 2 ans.
Ok.
Comme le BTS diététique, j'ai entendu le podcast cette semaine, c'est également 2 ans. On a la possibilité, certaines écoles proposent également une année de préparation.
Okay.
À ce BTS. Voilà, à l'issue des 2 ans, donc j'ai obtenu mon diplôme. À l'époque, il existait des CQP, les contrats de qualification pour pouvoir se spécialiser en gestion de magasin, donc plus comptabilité, ou en optométrie et contactologie, donc ce qui équivaut un peu à la licence aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était ça. J'aurais aimé le faire, mais finalement, je n'ai pas été reçue pour l'exécuter. Donc je suis passée directement en magasin, mais au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas un bagage qui était vraiment nécessaire.
Ok, c'est le petit truc en plus éventuellement auquel on peut accéder, mais qui n'est pas nécessaire pour exercer.
Voilà, qui peut rassurer éventuellement pour la prise en charge en magasin, qu'on se sente un peu plus à l'aise. Mais au final, on a d'autres possibilités après pour se former.
Mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, mais oui,
ouais.
C'est un métier qui est technique, et aussi il y a tout cet aspect commercial, c'est quand même un métier qui est particulier, on travaille sur deux secteurs très différents, mais je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard de toute façon.
Hyper polyvalent.
C'est ça.
Ouais.
Donc toi, une fois ton BTS en poche, qu'est-ce que tu décides ? Tu as peut-être fait des stages à des endroits, tu décides de t'orienter dans un endroit où tu as déjà été en stage ?
Alors, lors du BTS, à la fin de la première année, on a la possibilité de faire un stage de 3 semaines. Moi, j'avais décidé de le faire dans ma ville natale, parce que je suis née à Reims. Ma famille est à Reims, donc voilà, je suis restée 3 semaines à découvrir le métier d'opticien sur cette ville. Et j'avais déjà été émerveillée par le métier. je pense que ma révélation, je l'ai eue à ce moment-là. Quel impact un opticien peut avoir dans la vie de quelqu'un. En fait, c'est assez extraordinaire. On redonne la vue, on redonne un confort, on permet de revoir. Et j'étais vraiment très émerveillée de voir la réaction des clients. Donc voilà, suite à mon BTS, je suis restée encore à Reims pendant une bonne année. Donc j'ai découvert une enseigne finalement qui m'aura poursuivi par la suite, donc une autre enseigne. J'ai déménagé pendant un an et demi sur Auxerre, où j'ai découvert une autre enseigne, plus indépendante, moins de flux clients, donc voilà, une autre approche du métier, plus traditionnelle et plus indépendante. Ouais. Et après, je me retrouve en Alsace. Donc voilà, j'ai suivi mon ancien compagnon qui était muté. Donc me voilà arrivée en Alsace. Je retourne dans la première enseigne dans laquelle j'avais travaillé à l'issue de mon BTS. Et là, j'ai pu y rester 10 ans.
Ah oui.
Donc j'ai réussi quand même à m'épanouir dans mon métier. J'ai eu pas mal d'opportunités. Voilà, comment je me suis retrouvée en Alsace.
La petite histoire du déplacement géographique en France est expliquée. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions au quotidien ? Donc voilà, on a déjà un peu évoqué cet aspect voilà, très technique et puis à la fois l'aspect commercial. Je pense qu'on se doute pas de tout ce qui se passe. Enfin, même moi, j'ai entendu des clients dire dans des magasins, ah bah vous recevez les lunettes toutes faites, ou tu vois, genre juste, tu vas mettre les lunettes sur le nez des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup quelles sont les missions? Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais au moins quelques-unes.
Effectivement, donc tu parlais du côté technique et commercial, et en fait, on a, bah ça c'est de la polyvalence en fait du métier attire énormément les candidats aux études d'optique, et on a aussi cet aspect finalement professionnel de santé où on va également faire donc des bilans visuels, faire des adaptations en lentilles de contact. On a cette constante contact aussi avec la clientèle, la relation client qui est très importante. Donc c'est vrai que c'est très très polyvalent. Donc au final, le parcours, on peut parler effectivement du parcours hein, qui est quand même très long parce qu'il y a énormément d'intermédiaires en fait qui permet la réalisation d'une paire de lunettes. Déjà, il faut avoir un stock de montures dans le magasin. Donc il y a déjà une sélection de montures à réaliser. Via les fournisseurs, voilà, l'opticien en magasin est libre de pouvoir avoir les marques qu'il souhaite.
D'accord.
Donc, il choisit ses partenaires, il choisit ses collections de montures qu'il va avoir dans son rayon. Il va choisir son verrier. Donc, quel fabricant va lui fournir ses verres ? Il en existe quand même beaucoup. Et une fois que donc, le client arrive en magasin avec sa prescription médicale, on va quand même vérifier dans les conditions réelles la correction qui a été prescrite pour vérifier que ça répond à l'ensemble de ses attentes. Ensuite, on va donc choisir la monture. Tout ça, en tant que client, on le sait, on choisit la monture, on choisit les verres, les traitements. On prend toujours soin à ce que les besoins, en tout cas, soient bien compris par l'opticien pour y répondre au mieux. Et ensuite, eh ben, on passe commande. Donc, on passe commande, on appelle notre fournisseur, on commande les verres. Les verres arrivent en magasin et on va procéder au montage. Donc, on a une machine dans le magasin qui permet de tailler les verres en fonction de la forme de la monture. Parfois, il y a des montures qui sont un petit peu plus complexes que d'autres à monter. Donc, on peut passer à faire à 15 minutes pour réaliser un montage, ou ça peut prendre des fois une demi-heure, parce que c'est vraiment, vraiment très long. Et il faut être très minutieux, en tout cas.
Et le verre arrive brut, du coup, j'imagine, avec une forme ronde dans laquelle on peut tailler toutes les formes de lunettes derrière.
Exactement. Et on choisit notre diamètre de verre.
D'accord.
Donc, selon les corrections, selon le choix de la monture, on va être parfois limité aussi. Donc, c'est pour ça que si les corrections sont très, très fortes, il faut qu'on choisisse une monture qui soit vraiment adaptée, qui ne soit pas très grande. Donc, on puisse avoir des verres qui soient disponibles selon la taille de la monture.
Et pas une monture trop fine, par exemple, non plus, avec un verre qui serait trop épais et qui dépasserait de la monture. Enfin, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Je crois qu'aujourd'hui les verres sont de plus en plus fins d'ailleurs, mais il peut y avoir un peu un souci de compatibilité entre la monture et le verre qu'on met à l'intérieur.
Alors ça fait longtemps qu'on a atteint notre maximum d'affinage de verre. Enfin, en tout cas, moi depuis le temps que je travaille, voilà, le plus fin reste le plus fin. On
n'arrivera
pas au-delà. mais après, tout est dans l'art du choix de la monture. Vraiment, pour ça, écoutez votre opticien.
Oui, c'est sûr.
Monture va voilà donnera un résultat qui ne sera pas joli. Faites-lui confiance parce que c'est fondé derrière.
Ouais, il est bien placé pour savoir qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas pour certaines personnes.
Exactement.
Ok, ah, c'est intéressant d'avoir tout le détail. Donc voilà, c'est pas juste vendre une monture qui plaît à la personne, qui va bien au visage. C'est tous ces paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte.
Oui. Et après, il y en a d'autres également.
C'est, d'accord.
La réalisation du dossier administratif avec la complémentaire santé. Et là, on rentre un petit peu dans la bête noire de l'ensemble des opticiens, où finalement, on ne nous demande plus trop d'être opticien à ce moment-là, mais d'être gestionnaire de tiers payants. Toutes les mutuelles imposent leur façon de faire. Il y a des milliers de mutuelles. Ça nous met un peu les bâtons dans les roues, quand même. Ouais, ce système de santé, où parfois, on nous impose aussi... le prix des verres dans certains réseaux. C'est assez complexe. C'est assez complexe.
D'accord. Ah oui, c'est pas juste déjà le fait que les remboursements soient pas les mêmes selon les mutuelles, c'est qu'en plus la démarche ne sera pas la même selon les organismes.
Exactement. Oui.
Oh là là.
Donc, du coup, on a tous un dossier, un classeur qui regroupe l'ensemble des mutuelles avec lesquelles on a un partenaire, parce qu'on a un partenariat, parce qu'effectivement, c'est pas systématique. Et il y en a qui ont une façon de faire qui est très simple. On va sur le site internet, on note la monture, on note les verres, leur prix, leur cotation sécurité sociale, parce que selon la correction, bien évidemment, le code n'est pas le même, donc le remboursement est différent. Et on peut avoir l'accord de prise en charge rapidement. Et d'autres, bien, il faut se référer à une grille, parce qu'on ne doit pas dépasser certains prix pour certains verres, pour certaines corrections. Et les mutuelles, maintenant aussi, en fonction de la correction, peuvent imposer le type de verre. C'est-à-dire que, vous êtes obligé de mettre tel affinage, tel anti-reflet pour que le client soit remboursé intégralement. Si vous ne prenez pas ça, il sera remboursé beaucoup moins. Et voilà. Donc c'est...
Oui, d'accord. Ouais. Donc, il faut essayer de tout concilier pour que le client soit satisfait de la monture avec laquelle il va partir. Et puis, respecter le cahier des charges pour qu'il soit remboursé correctement, j'imagine.
Exactement. Ouais. Donc, ça peut créer de la frustration en tant qu'opticien quand on veut exercer son métier correctement et en accord, en tout cas, avec ses valeurs. Et c'est vrai que ça, parfois, ça vient un peu bafouer tout ça.
Le domaine de l'optique, alors je te dis ça de mon œil novice qui n'y connaît rien, c'est le cas de le dire, l'œil, c'est un domaine qui évolue très très vite, hein. Je pense notamment aux lentilles de contact qu'on peut porter la nuit maintenant pour corriger la myopie, etc. Les verres dont on a parlé, voilà, qui sont de plus en plus performants, mais comment en tant qu'opticien, opticienne, on se tient à la page? Est-ce qu'il y a des formations, des choses pour suivre l'évolution du métier?
Alors effectivement, tout d'abord, on a des sites internet ou des magazines spécifiques pour le métier de l'optique auxquels on peut se référencer, où on a vraiment les dernières nouvelles, les dernières technologies, voilà. Et ensuite, on a des formations proposées par les verriers, par les laboratoires de contactologie, également les commerciaux qui vendent les montures. Voilà, ça nous met aussi à la page sur les dernières collections, sur les derniers matériaux utilisés. Et c'est surtout comme ça, en fait, qu'on arrive en interne à se former sur les produits qu'on propose aux clients. Et après, de façon plus générale, voilà, les sites internet et magazines nous aident beaucoup.
Ok. Est-ce qu'il y a des formations supplémentaires que tu peux suivre par la suite, ou je sais pas, j'en ai pas une en tête, mais pour savoir.
Oui, tout à fait. Il y a des formations possibles, toujours proposées par les laboratoires, notamment. Qui proposent des formations en magasin avec un petit groupe d'opticiens pour vraiment qu'on fasse du concret, quoi. Et ça permet vraiment de sortir un petit peu de son cadre. Et ça, c'est super chouette. D'où le fait, finalement, parfois, d'avoir fait une licence pour se rassurer, mais finalement, on arrive quand même à retrouver ce potentiel de formation directement en activité.
Mmh. Ouais, c'est bon à savoir, c'est rassurant. Donc après ces 10 années en Alsace, tu prends la décision d'envisager un nouveau virage dans ta carrière.
Exactement. Alors cette enseigne m'a permis de pouvoir mettre un pied dans la mobilité. M'a donné cette opportunité-là et j'ai découvert un autre monde, parce que j'ai dû par moi-même essayer de comprendre comment fonctionnait un établissement de soins, notamment un EHPAD, quel était l'interlocuteur à contacter pour pouvoir proposer mes services d'optique en mobilité, et encore une nouvelle révélation. C'est-à-dire, j'ai vraiment rencontré un monde tellement bienveillant, agréable, souriant, rien à voir avec le commerce pur qu'on peut avoir en magasin, où là on a plus affaire à des gestions de problèmes clientèle, de stress stress en magasin suite au flux qu'il peut y avoir. Non, vraiment là, j'ai vraiment pu redonner un sens à mon métier.
Et c'est l'enseigne qui avait ce désir de se tourner vers les établissements extérieurs. C'est comme ça que tu as mis un pied dans l'optique à domicile.
Oui, exactement. C'est un nouveau concept, en fait, qui a été mis en place par l'enseigne. Donc, j'ai pu participer aussi à la mise en place du concept. Donc, c'était très intéressant de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et effectivement, voilà... le sens du service, c'était vraiment ce qui m'a plu, quoi. Et effectivement, depuis toujours, ma maman me disait, quand t'étais petite, tu voulais aider les autres. Et voilà, on y est, quoi.
Ah, génial. Oui, t'as vraiment cette vraie sensation d'être dans le soin, quoi, vraiment dans le soin des autres.
C'est ça, oui, tout à fait. Okay. Et au plus proche, pour des personnes qui ont du mal à se déplacer et qui n'ont pas accès, en fait, à la santé visuelle. Parce que c'est pas possible, pour différentes raisons, on en reparlera, mais...
Ouais, oui, c'est sûr. L'optique à domicile, du coup, elle s'adresse à qui ? À quel type de public ?
Alors, c'est variable. Je dirais qu'à tous, en fait.
Oui, c'est ça, hein, finalement, ouais. À tous.
Aussi bien les actifs qui souhaitent avoir le confort de pouvoir être avec leurs enfants à la fois à la maison et de pouvoir voir leur opticien... qui vient leur proposer des montures et voilà, enfin, le choix de verre, vraiment le magasin qui se déplace à la maison. Ça s'adresse aussi aux entreprises qui souhaitent proposer des équipements optiques, notamment dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ah. On peut du coup proposer des équipements spécifiques pour les postes occupés, que ce soit des lunettes pour l'ordinateur par exemple, ou même des lunettes de sécurité. Mm-hmm. Pour des personnes qui sont amenées à travailler avec des produits chimiques ou avoir des projections mécaniques. Ce ne sera pas la même lunette, mais voilà, il y a aussi cette solution.
Ah oui, intéressant.
Et puis, toutes les personnes qui peuvent être isolées de par leurs problèmes de mobilité, donc ça concerne aussi le handicap. Justement, aujourd'hui, on se spécialise énormément. Le handicap, le grand âge, et il ne faut pas oublier les aidants aussi, les personnes qui sont... tout à fait apte à sortir et aller chez leur opticien, mais qui malheureusement, de par la dépendance de leurs proches, ne peuvent pas se déplacer.
Ah, tu fais bien d'en parler, c'est vrai. Ouais, ouais.
On ne pense pas souvent aux aidants.
Ah bah les aidants, ouais, ouais, c'est sûr. Tu mets un pied dans l'optique à domicile grâce à cette enseigne. Est-ce que tu es toujours dans cette enseigne à ce jour ?
Alors non, j'ai décidé de quitter cette enseigne. L'arrivée du Covid a chamboulé complètement... ma vie professionnelle. À la sortie du confinement, j'ai pas eu la possibilité de continuer l'aventure en mobilité pour des raisons de raisons commerciaux, je dirais. Il fallait redonner un dynamisme au magasin, donc je suis revenue en magasin pour pouvoir booster un chiffre d'affaires qui avait été perdu pendant plus d'un mois.
C'est
énorme pour les entreprises. Et tous les jours, on avait des appels. Venez chez moi. Ah. J'ai besoin de vous. Et on disait, ben non, je ne peux pas. Donc ça a été un crève-cœur. Clairement, un crève-cœur. Et là, je me dis, c'est pas possible, en fait. Il faut que j'aide ces gens, en fait. je peux pas rester là en magasin en sachant qu'il y a une demande tellement croissante et importante à domicile. Donc voilà, j'ai secoué un peu mon réseau et j'ai échangé longuement avec un ami de promo de BTS qui m'a aidé à retrouver ma voix et m'a proposé de travailler dans l'enseigne pour laquelle je travaille aujourd'hui, donc les opticiens mobiles. Et donc c'est le premier réseau national d'opticiens mobiles en France.
D'accord.
Et là, vraiment, voilà, maintenant, je suis en accord avec mes valeurs, j'aide les gens.
Ah, oh, super.
Donc, je me sens beaucoup mieux.
Et puis, la demande, elle est grandissante parce que j'imagine que maintenant, voilà, ça se sait. Peut-être que les responsables dans les EHPAD ou les différentes institutions, maintenant, connaissent votre métier, font appel de plus en plus à vous. Il doit y avoir un bouche à oreille qui est hyper valorisant aussi pour vous.
Oui, tout à fait. C'est vrai que aujourd'hui, c'est pas encore une activité qui est connue du grand public, mais il y a un besoin qui est omniprésent aujourd'hui et qui le sera encore plus demain parce que la population est de plus en plus vieillissante, qu'il y a un développement de la filière des services à domicile qui est clairement grandissante aussi, hein. C'est vrai qu'on apprécie quand même pouvoir rester chez soi aussi et puis avoir le service professionnel qui vient à nous. Donc voilà, il y a énormément de potentiel, mais après voilà, tout le monde ne connaît pas, que ce soit les établissements, tous les jours, on me dit « Ah, mais ça existe !»
Ah oui.
Ah ouais, ça existe. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, petit à petit, on fait notre chemin. Mais voilà, il y a certains opticiens proposent aussi, hein, autour de leur secteur, de leur boutique, proposent aussi des interventions à domicile. Mm-hmm. Donc voilà, ça existe un peu partout sur le territoire. Et nous, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on couvre 100% du territoire avec le réseau.
Super. Vous savez combien vous êtes au total d'opticiens ?
Oui, alors on est une centaine d'opticiens actuellement.
Ok.
Le projet, c'est qu'en 2025, on soit 250.
Ah, super.
Donc, on va encore améliorer notre travail de proximité. Donc, c'est vrai que voilà, on est en fort développement, quoi.
Génial. Bon, puis alors, du coup, pour l'avoir vécu, alors, pas personnellement, mais par le prisme de mon mari, on a un ami opticien à domicile qui est venu lui faire des lunettes. Et donc voilà, moi Quentin, mon mari n'est pas PMR, il peut tout à fait se déplacer facilement, il a même du temps le week-end pour aller se faire des lunettes chez un opticien conventionnel, mm-hmm. mais c'était une expérience, je me permets de le dire en son nom, génial. Vraiment, il y a déjà un choix de monture. Enfin moi, naïvement, je me suis dit, bon, il va peut-être venir avec une dizaine de paires, mais non, alors vous avez des espèces d'immenses...
Des marmottes.
Ah voilà, c'est ça, j'avais oublié, non, des marmottes. Des grandes valises, mais vraiment très très hautes, avec plein de petits tiroirs à l'intérieur. C'est fabuleux, ça.
Oui, on a nos marmottes. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Je sais pas. Je pense que c'est merci. Il doit y avoir une raison. Mais effectivement, on a... moi, je sais que j'ai une 120 montures avec moi.
Oh, c'est énorme.
Et ça couvre... Alors voilà, il y a une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. Une partie de soleil, voilà, donc c'est sûr que ça segmente un peu plus, mais en tout cas, on a un choix pour tous, hein, que ce soit du plastique, du métal, du rond, du carré, du fin, du épais, du solide.
Oui,
voilà,
c'est ça.
Vraiment, on a tout. Après, c'est sûr que voilà, il faut être honnête, on n'aura pas un choix identique à ce qu'on peut avoir en magasin, où là, on parle de 1000 montures, quoi.
Oui, mais en même temps... Enfin, je parle pour mon expérience, mais moi, en magasin, je sais à peu près quelle forme me va. J'en essaye 4-5 paires, quoi, maximum. Et puis, sur les 4 ou 5, je vais trouver... Moi, j'ai pas besoin d'essayer les 1000 paires pour... il y a des formes qui ne me vont pas du tout, donc je laisse tomber.
Mais il y aura définitivement des clients qui ne pourront pas faire appel à des opticiens à domicile, sauf si, malheureusement, ils y sont contraints. Parce qu'ils essayent tout le magasin. Donc ça, cela, c'est un petit peu là aussi une petite bête noire. Et voilà, on en rigole, mais c'est vrai que sur le coup, quand on voit toutes les montures qui étaient en rayon qui se retrouvent posées sur les tables...
Il faut tout manger.
L'enfer. Bon, tout nettoyer, tout remettre en rayon.
Bon, l'avantage d'être chez soi aussi, c'est on essaye ses lunettes dans des conditions réelles. Enfin, je vois, Quentin, du coup, avait fait le tour de l'appartement et se regardait dans les miroirs qu'on a à la maison. Et en fait, on est tout de suite, je trouve, un peu en condition plutôt que... ces miroirs en magasin qui sont alors d'une très belle qualité avec un éclairage incroyable, etc. Et on se voit sous tous les angles, certes, mais je trouve qu'on se voit moins dans la réalité aussi. On est peut-être un peu plus pressé. À la maison, les gens prennent, ou en institution, les gens prennent peut-être un peu plus leur temps.
Ouais, tout à fait. C'est très convivial. Et c'est vrai qu'on instaure plus rapidement un climat de confiance. Parce que déjà, quand l'opticien rentre à la maison, eh ben, il rentre dans notre intimité et... Et alors, il y a un partage, il y a un réel partage avec lui. Et on a la possibilité aussi d'essayer en live les corrections qui sont prescrites. Donc voilà, j'ai besoin d'une paire de lunettes pour le télétravail. J'ai eu le cas avec mon beau-frère où on a testé les corrections sur son bureau parce qu'il avait un écran ici, un écran là, distance du clavier, la distance de ses supports d'écriture et on a pu trouver une paire de lunettes qui lui conviennent parfaitement avec une correction. Donc c'est vrai qu'il y a une personnalisation du service qui est optimale.
Oh là là, bah fabuleux. Et alors toi, du coup, niveau statut, comment ça se passe ? Tu es salariée de ce réseau ? Tu es indépendante ?
Alors non, moi, je suis salariée. Donc, de par la situation qui était un peu incertaine lorsque j'ai quitté mon précédent emploi, je me suis dit, bon, me lancer en franchise, c'est un petit peu osé. J'ai besoin d'avoir un cadre sécurisé. Mmh. Donc voilà, j'ai décidé d'être embauchée en tant que salariée. Donc aujourd'hui, on est environ 35 salariés opticien sur le terrain et après tout le reste ce sont des personnes qui sont en franchise, donc à peu près 65 franchises ou indépendants. qui rayonnent, eux, sur un secteur un peu plus petit, donc environ 30 km autour de leur domicile. Et nous, en tant que salariés, donc on va couvrir tout le reste sur le territoire. Donc, on a un peu plus de routes, mais au moins, voilà, on peut servir l'ensemble des clients qui en ont besoin. Alors, c'est vrai que l'avantage du domicile, il permet vraiment de lutter contre l'isolement. Donc, on va pouvoir rendre des petits services aussi. Donc, voilà, un petit papy qui est dans son appartement, eh ben, on va lui chercher son journal qui est dans la boîte aux lettres en bas. Donc, c'est vrai qu'on vit quand même des choses qui sont assez, assez incroyables. On permet de faire gagner du temps, on facilite l'accès à l'optique. Et ça favorise l'indépendance. On peut aussi éviter, pour le grand âge, éviter les chutes avec une bonne vue, parce que finalement, l'équilibre, il est quand même géré par la vue et l'audition. Donc, on a vraiment un enjeu hyper important concernant le risque de chute, surtout en EHPAD, quoi. Là où on intervient quand même énormément.
Et j'imagine que du coup, quand tu te rends en EHPAD, tu peux aller voir plusieurs patients en un seul déplacement, il y a toujours de la demande.
Exactement. C'est tout à fait notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on, lorsqu'on souhaite proposer notre service dans l'établissement, déjà, bon, il faut que la direction, bien évidemment, soit tout à fait en accord avec le service, et on va avoir toute une coordination entre l'équipe de soins, les familles, les résidents, et le but lors d'un déplacement, c'est de voir plusieurs résidents, de faire des dépistages, et puis de remettre dans le circuit de la santé visuelle, bah, certains résidents qui n'ont pas vu d'ophtalmologiste depuis une dizaine d'années, ou enfin voilà, c'est parce qu'en fait c'est un aspect qui est totalement oublié, ou en tout cas ce n'est plus une priorité, alors qu'au final c'est quand même très important. Donc voilà, on permet de faire des petits miracles parfois dans les établissements.
Ouais, ou des gens qui sont mal équipés, ou moi je l'ai vu hein, avec des lunettes qui ont des dizaines d'années, qui sont plus adaptées, qui sont lourdes.
Exactement. Ouais. On dit qu'il y a 40% des plus de 78 ans qui n'ont pas de lunettes adaptées.
C'est 40%, énorme.
C'est énorme. Ouais. C'est énorme, oui, tout à fait. Et après, ça concerne aussi les personnes qui souffrent de handicap. Donc, on se spécialise actuellement dans cette branche où il faut des montures spécifiques aussi. Qui sont un peu plus costauds, qui ne blessent pas en cas de geste, voilà, de geste lié à la pathologie. Voilà, du coup, on a vraiment un panel de clients qui est très important. Et en fait, on parle rarement de clients chez les opticiens mobiles, on parle de patients, de résidents. Ouais, parce qu'on a vraiment un lien beaucoup plus proche, quoi.
Ouais. Ouais, l'histoire du journal dans la boîte aux lettres, je pense que toutes les infirmières et soignantes à domicile qui écoutent le podcast vont se dire, bah moi aussi, c'est un truc, voilà, c'est un truc qui se fait quand on va à domicile.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des piles d'une horloge. Enfin, vraiment, c'est des vraiment tellement, tellement simple. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on leur rend un service qui est tellement apprécié que ça vaut tout l'or du monde, quoi.
Ouais, donc t'as l'air en accord complet avec tes valeurs, ce pourquoi tu voulais exercer ce métier à la base.
Exactement. Ouais, tout à fait.
Bon, heureuse dans ce que tu fais.
Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que l'avantage, c'est que je travaille du lundi au vendredi, donc je ne travaille plus les samedis, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même c'est quand même pesant de travailler le samedi et le lundi, d'avoir des jours de repos qui sont éloignés. Donc ouais, c'est le travail en magasin, c'est un autre monde pour moi aujourd'hui.
Ce jour, tu n'y retournerais pas?
Pas a priori, pas après. Voilà, je sais pas ce que me réserve l'avenir, hein. Et
bien
puis
sûr,
la profession va évoluer aussi, donc ouais.
Bon, bah ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà, ça donnera peut-être des envies de vocation, de réorientation, ou je ne sais pas. Super, merci Annaëlle.
Mais avec plaisir.
On va finir avec le petit portrait chinois pour te connaître encore mieux. La première question, c'est: que dirais-tu à la Annaëlle d'il y a 10 ans?
Écoute-toi, aie confiance en toi et fonce. Voilà, sois en accord avec ce que tu es et continue comme ça. Il y a une petite phrase que j'aime bien aussi, c'est fais ce que tu aimes et fais-le souvent.
Ah, génial. Ouais. Oh bah, ça colle bien avec, avec ce que tu fais aujourd'hui. question suivante, plutôt cantine ou lunchbox? Alors là, bah, ça c'est une question. Comment tu fais le midi pour manger?
Alors moi, je suis plutôt lunchbox. J'en ai aussi la possibilité d'aller en restaurant, ou voilà, mais je favorise la lunchbox. C'est un moyen qui est très flexible. Je peux manger sur le pouce dans ma voiture. Je peux aussi manger avec les équipes soignantes. Parfois, ça m'arrive. Donc là, l'hiver arrive, donc on fait réchauffer dans le micro-ondes de l'établissement. Et
super.
Puis, je me joins avec aux infirmières, aides-soignantes, ou voilà, pour manger avec elles. Et du coup, on a des échanges qui sont hyper intéressants.
Ah ouais, génial. Question suivante. Qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Ben, en y réfléchissant, énormément de choses. C'est vrai qu'en dans les études, on va faire vraiment du pratico-pratique. Donc, je crois qu'il y a presque 2/3 de mon quotidien aujourd'hui que j'ai appris en exerçant mon métier. Alors, on parlait de la gestion des mutuelles tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout en études. Enfin, en tout cas, pas... Non, pas du tout. En tout cas, moi, quand j'ai fait mes études, c'était pas le cas. Et comme je sais que le BTS n'a pas trop changé depuis presque 25 ans, ça ne doit pas toujours être le cas.
Pas de raison qu'ils aient ajouté ça au panel.
C'est ça. La gestion des relations clientèle aussi. Mm-hmm. Pareil, ça, on n'apprend pas trop. Et également le management, parce que du coup, j'avais eu l'occasion de pouvoir être responsable de magasin. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Et concernant la mobilité, pouvoir s'adapter vraiment à toute situation. C'est vrai qu'on ne se met pas en difficulté dans nos études. Mmh. Et là, on l'est davantage en mobilité.
Ah oui, donc une grande, grande partie, oui.
Ouais. Et puis, l'un chose, c'est l'approche des personnes fragiles et âgées. C'est vrai que chez les opticiens mobiles, on est formé pour ça. Et c'est très intéressant parce que du coup, on touche un petit peu au côté... différentes pathos, problèmes cognitifs qui sont totalement inconnus. Quoi,
ah hein. D'accord, donc ça vous l'abordez quand même, ouais.
Oui, on l'aborde et c'est essentiel pour pouvoir comprendre comment faire un bilan visuel à quelqu'un qui a Alzheimer, par exemple, ou qui a des problèmes cognitifs. J'en parlerai pas plus parce que j'ai pas de notion, davantage de notions, mais voilà, de voir... capter l'attention, une fois qu'on la capte, pouvoir être efficace en quelques secondes parce que rapidement l'attention se perd, pouvoir valoriser aussi quand la vue n'est pas bonne, mais qu'il n'y ait pas un sentiment d'échec vécu en face. Il faut quand même rassurer, apaiser, éviter de parler aussi de sujets qui peuvent être... sensible, sans que pour autant on le soit. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là. C'est un monsieur qui arrêtait pas de me dire « Vous êtes mariée ?» Je dis « Non, non. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes belle !» Voilà. Et ça, il me le répétait toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, il se demandait si j'étais mariée. Et toutes les 10 secondes, j'étais belle à ses yeux. Donc c'était... niveau confiance en soi.
Flatteur.
Mais bien. Donc vraiment adorable, et c'est un petit monsieur où du coup, moi, bêtement, je lui ai dit, mais vous êtes mariée? Et là, il commence à pleurer, et il me dit, non, j'ai perdu ma femme, et en fait, il était tellement triste, j'ai eu tellement mal au cœur pour lui, donc rapidement, il a fallu que je n'éponge pas ses émotions, et aussi que je change de sujet, donc... Tout de suite, j'ai commencé à chercher des chansons sur mon téléphone d'Enrico Macias. Je dis, mais qu'est-ce que vous écoutiez comme musique? Alors, on a commencé à chanter ensemble et c'était assez troublant parce que il était content de pouvoir écouter la musique, mais il avait encore ce sentiment de tristesse en lui. Il comprenait plus finalement pourquoi il était triste. Enfin, ouais, c'était assez dur. Et c'est vrai que quand on n'est pas... Bon là, à ce moment-là, j'apprenais encore un peu sur le tas. Et c'est vrai qu'il faut avoir tellement d'écoute, de bienveillance dans notre métier. De toute façon, sans cette qualité, on peut pas être opticien mobile.
Ah bah c'est évident.
Clairement.
Déjà que en magasin, ça doit déjà demander voilà une bonne dose d'empathie, d'écoute, etc. Mais oui, à domicile, oui.
J'imagine
d'autant plus. Carrément. On parlait de chansons. Bah voilà la question suivante. La chanson qui te booste quand tu as un coup de mou. Donc Enrico Macias.
Alors pour le coup, ça fait pas partie de mon de ma playlist. Non, moi j'aime beaucoup écouter Sia. Je trouve qu'elle a des musiques qui sont hyper punchy, et notamment She Trees, où voilà, on a envie de commencer sa journée en se boostant un petit peu. Pour moi, elle est parfaite. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
La vie est courte, profitez et n'écoutez pas, écoutez-vous. Ouais. Et ouais, la vie est courte, ça, j'ai eu un choc justement il y a un an, où chaque jour que je passais, j'avais l'impression d'avoir perdu une journée, quoi. Ça m'avait tellement affectée, et puis bon, après voilà, j'ai rebondi, mais ouais, vraiment, il faut optimiser au maximum ses journées et faire ce qu'on aime.
C'est une phrase qui revient beaucoup de la part des personnes âgées. Hein.
Moi, énormément.
Je ne sais pas combien de fois on a pu me la dire. Ouais. Profiter, ça passe si vite.
C'est vrai.
Ouais.
Ils ont raison.
Hein, bah, et puis je pense que quand on sera à leur place, on pourra d'autant plus le dire. Donc,
c'est vrai.
Ouais, c'est sûr. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Alors, j'ai pas réussi à trouver de film. Par contre, j'ai trouvé un livre qui résume un petit peu mon quotidien en EHPAD, où c'est de Virginie Grimaldi, Tu comprendras quand tu seras grande. Donc c'est l'histoire d'une psychologue qui est un petit peu perdue dans sa vie perso, et qui décide de rentrer dans un établissement de soins, dans un EHPAD. Elle a énormément d'a priori, et au final, c'est que du bonheur à lire. Vraiment, ça reflète vraiment ce que je vis parfois aujourd'hui, et c'était un plaisir de lire ce livre.
Ouais, c'est une très très belle autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit.
J'adore aussi.
Ouais, ça se lit tout seul, et à la fois, on sort complètement du sujet du podcast, mais écoutez, voilà, on finira sur une recommandation lecture. C'est un style qui se lit facilement, mais qui reste extrêmement bien écrit.
Exactement.
C'est pas de la lecture de plage, j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Oui, c'est, et puis on passe du rire aux larmes en deux secondes, enfin, c'est vraiment très agréable. Ouais.
C'est vrai. Bon, bah génial, merci beaucoup Annaëlle.
Mais avec plaisir.
Bon, bah, on te souhaite encore plein de belles années à domicile, à chouchouter tes patients. Mais ça fait plaisir de voir que t'es hyper épanouie dans ce que tu fais.
Bah écoute, ouais, je pense que c'est essentiel pour pouvoir être heureux au quotidien, c'est de pouvoir exercer un métier qui est vraiment en accord avec ses valeurs. Et voilà, je souhaite vraiment à tous les opticiens, en tout cas, qui se posent la question de ce qu'est l'optique en mobilité, et ben, qui n'hésitent pas à tester. Franchement, à tester. Et puis voilà, si ça leur convient, ben, qu'ils foncent. Vraiment, parce que ça vaut le coup.
Et ben voilà, le message est passé. Oui. Merci Annaëlle. Un grand merci à Annaëlle pour son témoignage. Je vous glisse en description de cet épisode quelques ressources pour en apprendre davantage sur le métier d'opticien lunetier, ainsi que sur le réseau d'opticiens mobiles où évolue Annaëlle. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.